Radio Okapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molima.
Le chef de l'État congolais poursuit sa visite dans les Kasaï. Hier, lundi, Félix-Antoine Tshisekedi est allé se rendre compte de l'exploitation minière du gisement de la société minière de Bakwanga dans les territoires de Miabi par l'entreprise chinoise Sasim, société en nuit d'investissement minier. Et puis, le chef du gouvernement congolais se penche sur la situation de Beni après l'attentat de samedi dernier, jour de Noël. Jean-Michel Samalou Kondé a réuni des responsables des services de sécurité, des renseignements et quelques membres de son gouvernement. Vous l'entendrez dans ce journal. Enfin, nous recevons dans cette édition Gabi Kouba. Il est président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Il nous dressera le bilan de la liberté de la presse en RDC en cette année finissante 2021. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Le chef de l'État poursuit sa tournée dans la province du Kasaï oriental. Ce lundi, Félix-Antoine Tshisekedi a visité la société Ennui d'investissement minier, Sasim en sigle. Cette entreprise chinoise exploite du diamant sur un gisement de la société minière de Bakwanga, Miba en sigle, dans les territoires de Miabi. Des explications avec Esther Ndalafina.
Malgré l'atmosphère qui paraissait maussade suite à la pluie, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli avec pompe par les habitants de cette cité minière de Boya. La mission de la société Ennui d'investissement minier Sasim n'est autre que la concrétisation de la promesse faite au cours du meeting vendredi dernier à la grande place de Bonzola. Le chef de l'État a émis le vœu de visiter le gisement de diamant de Tshibwe dans la localité de Boya pour s'enquérir de la situation relative à l'exploitation du diamant sur un gisement de la Miba par la société. C'était à nuit d'investissement minier Sasim en sigle. Jusqu'alors, rien n'a filtré de cette rencontre tenue entre les responsables de cette entreprise minière et Félix-Antoine Tshisekedi. Rappelons qu'au cours de la 45e réunion du Conseil des ministres du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, tenue au mois d'août 2020, une décision avait été prise, celle d'exiger à la société à nuit d'investissement minier de payer des revenus à la MIBA suite à l'exploitation de son gisement de Tshibwe dans le cadre d'un partenariat à part égale entre le partenaire chinois et l'État congolais. Des sources proches de la MIBA affirment que cette décision souffre toujours d'application. Après Boya, le chef de l'État était attendu à l'esplanade du territoire de Miabi par les habitants de cette cité. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre nouvelle, à Boutembo, les chauffeurs de taxi et taximoto affirment passer les festivités de fin d'année dans la crise économique suite à la hausse du prix du carburant. Celui-ci est rare dans la région depuis bientôt un mois, disent-ils. Ils achètent un litre de carburant à 2500 ou 2800 francs congolais à la pompe et 3000 francs chez les revendeurs communément appelés Kadhafi. Pourtant, il y a peu, le même litre se vendait entre 2000 et 2300 francs. Ces chauffeurs de taxi se disent inquiets face à cette situation. Florida Kahambu en a rencontré quelques-uns. Voici son reportage.
Jimmy Munguluma, chauffeur de taxi-voiture empruntant l'axe Butembo-Goma, indique que la fête de Noël ne s'est pas bien passée dans sa famille. Pourtant, les prix du billet de voyage restent les mêmes jusque-là, s'exclame-t-il.
Le billet de voyage reste toujours 25$ de Butembo-Goma. Pour la voiture Butembo-Goma, on consomme 40 litres en 50 litres. Les 40 litres, on paye à 37$ ou 40$. Mais actuellement, les 40 litres, on les paye à 60$ ou à 65$.
Du côté des chauffeurs de taxi-moto, l'on indique que la situation est pire pour ceux qui n'utilisent pas leur propre moto, comme le témoigne l'un d'eux. Nous consommons 3 litres par jour. Si tu gagnes 15 000 francs, tu enlèves 9 000 francs du carburant, tu restes avec 6 000 francs. Parce qu'à chaque fin de la semaine, ton patron, tu dois lui remettre 20$. Il y a près des mois, Polycarpe Ndivito, président de la FEC Butembo Lubero, avait justifié la rareté du carburant dans la région par le blocage des véhicules transportant cette marchandise à Malaba, en Ouganda. Suite à une contre-vérification de la taxe récoltée par le GFREM en RDC. Polycarpe Ndivito avait indiqué que le gouvernement avait déjà décanté la situation. Contacté ces jours, il rapporte qu'aujourd'hui, seules 3 stations-service desservent de l'essence dans la ville. Selon lui, les autres stations-service seront approvisionnées graduellement à partir du Kenya qui a mis la priorité sur la consommation locale faute des baisses au niveau de sa raffinerie. Butembo, Florida Kaambu, Radio Kapi.
Dans la province de la Tchopo, 2 jours après Noël, l'ambiance festive dans la ville de Kisangani est toujours au rendez-vous au centre-ville. Outre l'engouement habituel des gens au marché en pareille période, les banques sont également prises d'assaut par les fonctionnaires n'ayant pas retiré leur salaire la veille de Noël. Jacques Monconcolé, comment les gens ont pu passer cette fête de la nativité et comment envisagent-ils celle de la bonne année ?
Difficile de circuler aux alentours du marché ou d'y pénétrer. La circulation est tellement intense que vous ne savez où mettre le pied. Pendant ce temps, la musique se joue à tue-tête. Ailleurs, ce sont des comédiens qui se livrent en spectacle devant certaines maisons commerciales pour attirer d'éventuels clients. En tout cas, l'ambiance est de fête au centre-ville. Mais comment a-t-on fêté en famille ? Pour certains, l'ambiance était bon enfant. Fabrice Bissamounou.
Les enfants ont bien fêté parce que ce qui était l'essentiel, ils ont quand même trouvé leur habillement, à manger. En tout cas, tout s'est bien passé.
Il en est de même de cet étudiant de l'ISC Kisangani qui loue l'ingéniosité de sa mère.
J'ai voulu retirer l'argent le vendredi passé, mais il y avait perturbation de la connexion. Malgré ça, on avait bien feinté par la grâce de Dieu et maman nous a préparé quelque chose à manger et à boire aussi.
D'autres par contre trouvent que le manque de moyens financiers ne leur a pas permis de célébrer Noël avec faste. Tel est le cas de cette dame.
Ça n'a pas marché. Avec l'engouement du marché puis les hausses des prix, ça n'a pas marché vraiment, comme on a toujours fêté.
Si quelques-uns pensent que la bonne année connaîtra la même ambiance qu'à Noël, d'autres aimeraient plutôt que le gouvernement améliore leurs conditions de vie.
Tout nous, les fonctionnaires de l'État, que les chefs de l'État passent à nous. Nos maris militaires, les magistrats, pour que leur vie s'améliore.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Attentat terroriste de Beni le 25 décembre dernier, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé ce lundi une réunion de crise de sécurité. Cette réunion a connu la participation de quelques membres du gouvernement et des responsables des services de sécurité et de renseignement. C'est confié à la presse à l'issue de cette réunion, le Premier ministre a commencé par exprimer sa compassion, la compassion du gouvernement envers les familles de tous les compatriotes victimes de cet acte terroriste. Le Premier ministre, qui invite par ailleurs la population à la vigilance et à la dénonciation, rassure que son gouvernement reste déterminé à mettre fin à l'activisme de l'ADEF dans cette partie de la République. On écoute le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Le premier message, c'est d'abord un message de compassion et de condoléances vis-à-vis des familles qui ont perdu des membres chers à la suite de cet acte terroriste commis. Mais c'est aussi un message que nous voulons lancer à la population de vigilance, de rester vigilant en cette période de fin d'année pour qu'ensemble, avec nos services de sécurité avec lesquels nous nous sommes réunis, nous puissions relever ce défi sécuritaire. Vigilance à tout moment, tout azimut et surtout signalement. Dès qu'il y a un événement anormal qui est vu, ça doit absolument être signalé. Mais aussi demande de soutien de toute la population. Nous l'avons vu, toute une compassion s'est levée de tous bords et de tous acteurs politiques dressés comme un seul homme, comme des Congolais, vis-à-vis d'une menace à la République. Et donc ce soutien, il doit rester maintenu pour que nous soyons sûrs.
Alors, sur place à Beni, au Nord Kivu, la population continue de vivre dans la psychose. Dimanche, par exemple, même hier lundi, toutes les activités ont tourné au ralenti. Pendant ces temps, les autorités sont à pied d'œuvre pour renforcer la sécurité de la population dans la ville. Marc Maroufimbo.
Ce lundi matin, les activités ont timidement commencé. Les élèves qui partaient à l'école en apprêtant le boulevard traversaient le lieu de l'accident avec la peur qu'on pouvait lire dans leurs yeux. Au marché central de Kilokwa et au petit marché près de l'état-major de la police, les activités étaient timides et plusieurs étalages sont restés vides. Dimanche, très peu de personnes se sont rendues au culte dans différentes églises de la ville, contrairement aux habitudes. Certaines églises étaient presque vides. Pasteurs et prêtres disent que la population avait peur non seulement à la suite de ce qui est arrivé à la veille en ville, mais aussi de l'attentat enregistré dans dans une chapelle catholique de la place il y a quelques mois. Rappelons qu'à la suite de l'attentat de Noël, plusieurs mesures sécuritaires ont été prises par les autorités nationales et provinciales, dont un couvre-feu qui commencera à partir de 19h locales à Beni. L'autorité urbaine, pour sa part, demande à la population de respecter ces mesures, car c'est une façon de permettre aux services de sécurité de faire correctement leur travail. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Restons à Beni, où toujours en rapport avec cet attentat de Noël, le service de la protection civile de Beni invite les habitants à faire preuve de vigilance à la suite de l'attentat à la bombe qui a fait 8 morts samedi dernier. Pour son coordonnateur, la population doit être disciplinée et doit respecter toutes les mesures sécuritaires prises par les autorités compétentes à travers le couvre-feu. Écoutez Jean-Paul Capitula au micro de Marc Marofimbo.
Nous avons demandé la population à être beaucoup plus vigilante. La seule chose, c'est de dire, ces gens qui posent ces bombes viennent d'où? Nous devons nous regarder dans les yeux. L'ennemi qui nous a causé du mal, il doit avoir été chez quelqu'un. Il doit avoir communiqué avec quelqu'un. Ou il a été amené par quelqu'un. Et je ne m'imagine pas que, en mettant les gens sur des motos, dans les voitures, si nous n'adoptons pas des comportements d'avoir de manifestes, de faire le check de tout ce que nous portons sur nous, on va être en train d'aider l'ennemi à nous maltraiter. Et c'est notre vigilance qui fera que ce couvre-feu soit aussi efficace. Donc nous devons être disciplinés, nous populations, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et pour ne pas aussi décourager ceux qui sont là pour vouloir nous ramener la sécurité. Ça veut dire les agents de l'ordre. Ils doivent nous amener des mesures. Si nous nous adaptons directement à ces mesures, on va leur permettre de faire leur travail. Toutes les mesures qu'on a prises ne vont qu'aboutir que lorsque nous, populations, nous allons adopter ces mesures et nous allons donner notre part de contribution.
Au sud Kivu, de violents combats signalés hier lundi matin dans les hauts plateaux de Kamombo, groupement de Balala Nord, secteur de Tanganyika, en territoire de Fizi. Des présumés combattants Gumino et leurs alliés ont attaqué la position des FRDC à Kamombo, Namara et Tchakira, à 17 km à l'est de Mikenge. Plusieurs sources crédibles précisent que ces trois villages sont tombés entre les mains des assaillants commandés par le colonel déserteur de l'armée Michel Rukunda, alias Makani. Sans donner le bilan de ces affrontements, sont confirmés par le porte-parole du secteur opérationnel Sukula 2 au sud du sud de Kivu. Le major Dieudonné Kasereka ainsi que le chef de secteur de Tanganyika, John Mulondani, dans le territoire de Fizi. Fiston Goma.
Ces combats ont commencé tôt vers 4h du matin. Les assaillants présumés Gumino et alliés ont attaqué par surprise la position des FRDC où venaient d'être déployées récemment les troupes du 122e bataillon dirigé par le colonel Yaoundé. Des sources locales à Kamombo confirment que les populations civiles se sont dispersées dans la brousse, tandis que d'autres ont fui vers Mikenge et Mikalati de l'autre côté du Tombo et dans les territoires des Mwenga voisins. On écoute les chefs des secteurs de Tanganyika, John Mulondani.
Kamombo, c'était un centre où il y avait encore la population sécurisée par les militaires et que les militaires sont attaqués. Alors il faut que les gens fuient les affrontements de Kamombo jusqu'à Mboko Lusenda. Ce n'est pas qu'ils viennent directement, il n'y a pas de route, de chemin qui mène vers là.
Pour l'instant, une psychose générale est observée à Minembo Centre où des informations font état de la progression des combattants Gumino vers l'état-major de la 12e brigade FRDC. Entre-temps, du côté de l'armée, des sources sécuritaires signalent l'avancée en rescousse de troupes du 121 bâton commando de Mikenge vers Kamombo. D'autres tirs ont été signalés ce même jour dans le village Kawira et Kivumu, au nord-ouest de Minembo Centre. D'Ouvira Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
Parlons santé dans cette édition du journal et restons dans le sud de Kivu. Lancement ce lundi 27 décembre de la campagne de vaccination contre le choléra dans la province. Une activité organisée par le programme élargi des vaccinations en partenariat avec l'OMS Sud Kivu. La cérémonie officielle a eu lieu au centre de santé Panzi de la commune d'Ibanda. Le ministre provincial de la Santé, le bourgmestre d'Ibanda et les chefs de quartier ont été vaccinés à l'occasion. Le point avec Cynthia Bachizi.
Le programme élargi de vaccination espère vacciner plus de 800 000 personnes d'une année et plus. Cela dans les zones de santé d'Ibanda, Kadutu et Bagira dans la ville de Bukavu, ainsi que dans les zones environnantes, notamment les zones de santé de Katana, Kabare et Nyantende. Selon le docteur Makakala Constantin, chef ad intérim de l'OMS au Sud Kivu, la vaccination est l'un des moyens efficaces pour lutter contre le choléra à côté de l'approvisionnement en eau potable, de la prise en charge médicale et la sensibilisation. Il sied de souligner que
le Sud Kivu est une région avec plusieurs zones qui sont endémiques au choléra. C'est ainsi que pour une adhésion massive de la population, Dr Makakala a rappelé que la vaccination est primordiale dans la prévention du choléra, étant donné que le vaccin renforce l'immunité des personnes. Notez que cette nouvelle campagne de vaccination va durer 5 jours et prendra donc fin ce vendredi 31 décembre. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Depuis hier lundi, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani est en visite en Algérie et ce pour 3 jours, sa première depuis son élection. Il s'agit aussi de la première visite d'un chef d'État mauritanien à Alger depuis une décennie. Alors que la situation dans le Sahel et la coordination sécuritaire à leurs frontières communes seront au cœur des discussions, le président mauritanien veut répéter sa proposition de médiation entre Rabat et Alger après la coupure des relations diplomatique.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est Gabi Kouba. Il est président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Il dresse le bilan de la liberté de la presse en 2021. Il s'exprime aussi sur le respect de l'éthique et de la déontologie de la part des journalistes congolais dans l'exercice de leur profession. Gabi Kouba est interrogé par Alain Irung. Suivez.
Gabi Kouba, bonjour.
Bonjour.
L'année 2021 est en train de se terminer. Quel bilan dressez-vous en termes de respect de la déontologie, de l'éthique et du professionnalisme du point de vue des journalistes congolais?
L'année 2021 a connu assez de problèmes et à cause des dérapages dans l'exercice du métier. Les journalistes n'ont pas toujours fait correctement leur travail. Les pouvoirs publics également n'ont pas beaucoup apprécié le travail qui a été fait par les professionnels des médias. Je tiens d'abord à dresser un bilan sombre concernant les cas de décès. Dans la partie est du pays, nous avons perdu en 2021 4 journalistes qui ont été tués dans des circonstances non encore élucidé jusqu'à ces jours. Alors, pour revenir à votre question, nous avons constaté qu'avec les nouveaux variants aujourd'hui en journalisme, ce que moi je qualifie dans l'exercice de la liberté de la presse, les nouveaux variants du journalisme congolais, donc le respect éthique et de déontologie pose problème parce que il y a ces journalistes qui agissent comme des mercenaires politiques. C'est ce que moi j'appelle nouveaux variants. Mais il y a aussi cette question des survivances de certaines habitudes de la part des décideurs, surtout des responsables politiques et les chefs des institutions qui n'acceptent pas les critiques formulées contre eux dans l'exercice de la liberté de la presse. Donc voilà un peu ce que je peux dire brièvement concernant l'année 2021 qui s'achève.
Restons sur les journalistes avant de voir comment ça se passe du côté des autorités. Comment vous expliquez le fait que plusieurs journalistes actuellement, selon plusieurs observateurs, se comportent comme des militants politiques, vous l'avez dit.
Lorsque vous regardez, plus de 99% des médias sont détenus par des acteurs politiques. Ce qui fait que la liberté et l'indépendance sont très limitées. Mais vous regardez également de l'autre côté, les médias publics sont presque l'apanage de ceux qui sont au pouvoir. Cela limite également l'exercice de la liberté de la presse. Alors, on voit aussi la précarité des niveaux de vie dans les organes de presse. Et je peux vous dire que la majorité des organes de presse n'ont pas signé des contrats de travail avec les journalistes. Et même ceux qui ont signé par hasard des contrats de travail avec les journalistes ne les traitent pas comme il faut. Donc, les journalistes sont appelés à aller chercher et l'information et l'argent pour l'organe de presse qu'il utilise. Alors, cette situation crée une confusion et la majorité des organes de presse, des propriétaires des organes de presse, comme ce sont des partis politiques, alors les rivalités politiques affectent également les médias et on place les journalistes dans une situation extrêmement difficile et peu de journalistes aujourd'hui sont réellement indépendants dans notre pays au regard des positionnements politiques et cela les pousse à agir comme des acteurs politiques que moi j'appelle des mercenaires politiques.
Quel bilan dressez-vous dans la manière des décideurs de protéger les journalistes, de protéger la liberté de la presse en 2021?
Oui. Le bilan que j'ai fait est que depuis l'accession du président Tshisekedi au pouvoir, on assiste à une vraie liberté de la presse, même si je déplore des séquelles et les anciennes habitudes d'une certaine époque, mais il faut voir également la gestion du pays par les décideurs n'est pas toujours orthodoxe. Et les quelques journalistes qui font un vrai travail d'investigation, un travail d'information, d'information et travail d'enquête ne sont toujours pas acceptés par ces décideurs, qui fait qu'ils sont souvent en difficulté. Mais il y a également cette overdose de démence qu'on observe dans les médias, parce que les imputations dommageables et la diffamation, des affirmations gratuites également de la part des journalistes, énervent aussi les décideurs. Ce qui fait que, concernant la protection des journalistes, nous partageons la responsabilité. Les décideurs politiques estiment qu'il faut protéger la liberté. Les journalistes doivent également être plus lucides et plus responsables dans l'exercice de leur métier. Nous également, nous demandons aussi aux responsables politiques, aux dirigeants, au pouvoir, aux chefs des institutions, d'être plus transparents et de rendre compte, donc, un travail citoyen, ce qui fait que tantôt, on assiste à l'exercice et à l'émergence de la liberté de la presse, tantôt, nous assistons également à des survivances des pratiques d'une certaine époque. Mais sur cette question, nous avons récemment examiné la situation de la dépénalisation des délits de presse. À défaut de dépénaliser les délits de presse, lors des travaux préparatoires des États généraux de la communication et médias qui se sont tenus au centre Nganda, nous avons proposé à ce qu'il y ait un moratoire sur les arrestations et l'emprisonnement des journalistes.
Gabi Kouba, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.